Nous en venons donc maintenant à Denis Jérôme, qui est, comme vous le voyez, directeur de recherche émérite au CNRS et membre de l'Académie des sciences, et qui va nous parler de l'inverse de ce que j'ai en tête, c'est-à-dire il va nous parler d'une révolution suivie d'une évolution.
En dernier. Bien, merci, bonsoir. Écoutez, je me présente aussi bien en tant que chercheur émérite, mais enfin toujours chercheur, physicien, je précise, parce que le domaine a son importance dans le problème des publications, et aussi membre de l'Académie. Bon, vous avez déjà eu une petite introduction par notre collègue Jean-François Bach ce matin. La révolution Internet, tout le monde la connaît, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a quand même une évolution, et revenons un peu à ce qu'on appelle la publication. La publication, c'est tout de même l'annonce d'un progrès dans la connaissance scientifique. C'est véritablement de l'information scientifique, ce n'est pas uniquement de la communication. La publication est une étape pour un chercheur, c'est une étape pour la recherche. Je dirais, nos amis britanniques ont le mot « milestone » qui convient, je trouve, très bien à la définition de la publication. C'est un milestone. Ce n'est pas une nécessité non plus. Hein. Si vous n'avez rien à dire, rien à publier, ne publiez pas. Il y a beaucoup trop de publications actuellement. Il y en a beaucoup trop. Je trouve qu'un chercheur devrait faire une publication par an. Ça serait grandement suffisant. Alors évidemment, vous pondérez ça par le nombre de co-auteurs, hein, mais vous voyez qu'actuellement, on est, je pense, largement au-dessus de un par an par personne. Ça ne doit pas être galvaudé non plus, la publication. Et malheureusement, ce n'est plus le cas, mais la publication devrait être à peu près le tiers du temps de travail pour un thésard. Et malheureusement, on voit trop souvent des thésards qui rédigent leur thèse en 2-3 mois pendant l'été pour la présenter au mois de septembre, enfin au mois d'octobre. Ça, c'est vraiment dommage. Elle doit être évaluée par les pairs. Vous l'avez entendu ce matin, on l'a toujours entendu même hier aussi. Je considère que c'est un autre débat extrêmement important, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Elle doit informer, elle doit aider les autres chercheurs, ne pas les engager sur des fausses pistes, éviter les redondances aussi. Parce que maintenant, il y a beaucoup trop de redondances. Alors, je ne parle pas du dopage qui revient. Enfin, le plagiat, pour moi, c'est du dopage. Hein. Et donc, je ne parle pas de ça, bien sûr, mais même sans vouloir faire de plagiat, il y a beaucoup trop de publications et de republications. Et alors, un point aussi qui est important, c'est que la publication sert à l'évaluation tant de la recherche que des chercheurs, et ça, il faut bien voir, ça c'est un point assez important, et aussi que la publication, ça n'exclut pas d'autres formes de communication qui peuvent être orales, qui peuvent être dans les magazines, etc. Donc ça, il y a différentes formes. Allons vers l'accès libre, c'est-à-dire ne plus restreindre l'ensemble des lecteurs à celui des abonnés qui est le système actuel, puisque dans le système actuel, bien sûr, nous, académiques, nous avons accès à peu près à toutes les publications, mais c'est quand même un cercle très restreint. Et ce qui est absolument démontré, c'est la beaucoup plus grande visibilité des travaux, en gros, où qu'ils soient publiés, ils sont beaucoup plus visibles quand ils sont en accès libre, on en a parlé longuement. C'est une aide à la recherche pour les chercheurs, jour le jour, et c'est aussi donc l'aide à l'évaluation de la recherche, à condition que ça soit manipulé avec soin et discernement. L'évaluation. Alors, l'évaluation, on en a parlé, je dirais, c'est... Là, je parle de l'évaluation des travaux de recherche qui vont être publiés. Elle est absolument indispensable. Elle doit se faire sous le contrôle d'un rédacteur en chef qui a le rôle décisionnaire. Le rôle décisionnaire n'est pas le rôle des experts qui ont été nommés par le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef doit éventuellement aller contre l'avis d'un certain nombre des experts, des expertises qu'il a reçues. Il prend vraiment une responsabilité et je veux mettre en avant l'importance que, je dirais, le rédacteur en chef d'une revue spécialisée doit être un très bon scientifique. Et c'est à ce moment-là aussi que l'on doit reconnaître et que l'on doit pouvoir valoriser le travail je dirais, là, d'une part des rapporteurs relecteurs et aussi d'un rédacteur en chef. Ça doit être un point très important dans le CV d'un de nos collègues ou d'une de nos collègues qui accepte de faire ce travail de rédacteur, de prendre en charge une revue. Un autre point aussi, c'est que c'est vraiment dommage que les meilleurs rapports, ceux qui informent le plus, soient inconnus. Donc, nous proposerions que la publication de ces meilleurs rapports sous forme d'articles, de mise en perspective du sujet. Certaines revues le font actuellement, sous forme qu'ils appellent de « news and views », vous saurez qui le fait comme ça. C'est souvent des articles qui sont d'ailleurs beaucoup plus intéressants que l'article d'origine, parce qu'ils sont rédigés par des gens qui ont plus de hauteur, des champs plus larges, et qui sont de très bons articles d'introduction à un sujet. Donc ça, je voulais le citer. Les différentes formes d'accès libre, je ne vais pas m'étendre, parce qu'on vient d'en parler pendant deux jours. Vous avez le vert, on va en parler tout à l'heure encore, je pense. C'est le système avec abonnement, avec embargo. Alors, je viens d'apprendre un mot, c'est qu'en fait, c'est les barrières mobiles, en français, ça se dit. C'est nos amis québécois viennent de nous apprendre quelque chose, je ne savais pas. Enfin, disons embargo, parce que c'est plus court. De 6, 12, 18, 24 mois, etc. Alors là, ça dépend vraiment des domaines. Pardon. Pour les mathématiciens, évidemment, les travaux ont des durées de vie qui peuvent s'étendre jusqu'au siècle. Donc un embargo de 18 mois, ce n'est pas grand-chose pour les mathématiciens. Les biologistes, on sait bien qu'un article en biologie est périmé au bout de 6 mois. Donc, vous voyez, les différents domaines, donc différentes durées d'embargo. Il y a l'accès libre doré. Alors là, pour simplifier, les frais de publication, ils sont fixés par l'éditeur, on doit payer pour être publié. L'accès libre hybride, on en a beaucoup entendu parler. Alors c'est le pire de tous, puisque c'est le modèle traditionnel auquel vous ajoutez les APC. Et en fait, il y a aussi une condition très importante, c'est qu'on doit avoir une pérennité pour les publications, une pérennité pour les archives. Et ça, c'est un modèle qui justifie l'existence tout à fait des archives institutionnelles de type HAL pour les préprints d'une part, ou pour la version éditeur après la période d'embargo, par exemple, quand on est dans le green, mais même quand on est dans le gold. Bien. Alors, pour donner une idée, ça a été déjà donné dans la présentation précédente, une vague idée quand même de ordre de grandeur des prix. Vous voyez que suivant que vous êtes les plus chers, bien sûr, sont en général les hybrides. C'est en euros, là. Les moins chers se trouveraient, même s'il y en a à 200 Hindawi, mais alors là, je ne vais pas trop en parler, mais je dirais que nos amis britanniques sont de l'ordre de 1000 euros. Ça, c'est actuellement les APC qui sont demandés. Enfin, c'est même, ça date de 2010, donc c'est un peu périmé. L'étendue de l'open access, alors j'ai pas pu trouver la même slide en France. Ça serait quand même assez intéressant si nos collègues français faisaient la même chose, c'est voir comment se répartit l'open access sous ses différentes couleurs suivant les domaines. Alors, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, vous voyez que ce sont finalement la médecine clinique qui fait le gros des publications, dont 4% sont en gold, et puis vous avez en vert 34%, c'est l'ellipse du centre. En général, la recherche biomédicale semble avoir pas mal d'argent pour payer les APC. Par contre, la physique, c'est à peu près comme la chimie, etc. Vous voyez, c'est en bas. C'était en 2010, donc ça a beaucoup augmenté maintenant, sûrement. C'est 4% est en gold et 48% est en vert. Bon, c'est tout. Alors maintenant, ce que je voulais dire, c'est que on va pas raser gratis. Il y a des coûts. Et il ne faut pas du tout qu'il y ait une confusion entre accès libre et accès gratuit. Et c'est là que je voulais en revenir en fixant un peu les coûts éditoriaux pour un taux d'acceptation dans une revue qui serait de 40%. dans une grande revue française. Alors là, ce n'est pas imaginé. Hein. Ce sont les sources qui est données par une des, bon, un des grands éditeurs français, qui est EDP Science, qui a bien voulu me confier ses renseignements. Eh bien, ça, c'est les coûts éditoriaux, c'est-à-dire vous avez en bas... Vous avez le peer review qui intervient pour 15%, vous avez la composition pour 10%, le marketing quand même pour 15%, l'éditeur scientifique, bon, qui est des petites gratifications, je pense, la plateforme web, etc. Donc, il y a quand même des coûts qui sont associés à, je dirais, l'évaluation scientifique, à la mise en forme, etc. Maintenant, le coût de l'évaluation du peer reviewing d'un article en fonction du taux d'acceptation de la revue. Alors, ça a été déjà mentionné, je crois, ce matin. Évidemment, plus le taux d'acceptation est faible, plus le coût est élevé, puisque c'est seulement... vous faites votre argent, votre bénéfice sur ce qui est publié et pas sur ce qui est reçu. Eh bien, en moyenne, je dirais là encore, ce sont des chiffres basés sur la réalité. Par exemple, si vous avez un taux d'acceptation de 40%, il n'y a pas de pointer, c'est bon, c'est pas grave. Si vous avez un taux d'acceptation de 40%, ça vous revient pour faire l'évaluation d'un article de l'ordre de, mettons, de 250-300 euros. Vous avez aussi un coût par article en fonction du nombre d'articles publiés dans la revue, puisqu'évidemment, ça permet d'amortir. Plus vous publiez, plus vous amortissez avec les frais généraux. Eh bien, vous voyez que si une revue, c'est une revue assez classique, qui publie 1400 articles par an, le coût par article, globalement, ça sera là, c'est en dollars, attention, donc c'est de l'ordre de 1000 euros. Donc, je dirais, retenons le chiffre de 1000 euros par article publié. Alors, dans un modèle abonnement, ça serait de l'ordre de 1300 euros. En France, c'est un chiffre, c'est pas si facile de connaître nos dépenses d'accès aux publications, mais mettons, le budget, je pense qu'il est entre 100 000 et 140 millions d'euros pour 75 000 articles qui sont publiés en France annuellement. C'est l'ordre de grandeur. Donc, vous voyez qu'on n'est pas très loin d'avoir une équivalence de budget entre les coûts des articles publiés et le coût des abonnements. Et ça, ça devrait faciliter les choses. Proposition de l'Académie, sur laquelle nous avons travaillé, pas uniquement avec Jean-François Bach, nous étions des représentants de toutes les disciplines des sciences, soit du vivant et de la matière dure. Donc, on y a réfléchi pendant assez longtemps. On a écouté aussi beaucoup de gens, dont Jean-Pierre Finance, d'ailleurs. Finalement, on est sorti avec des recommandations qui sont que les procédures de diffusion des publications, elles soient organisées suivant deux axes complémentaires. D'une part, les archives ouvertes. Elles ont un rôle important, ça a été redit ce matin, cet après-midi. Je pense à HAL en particulier. Et que, d'autre part, l'accès libre doit être institutionnel, je vais y revenir, financé par des accords entre le ministère, les éditeurs, garantissant une préservation à la fois des standards de qualité. Nous sommes extrêmement attachés à ce que on ne publie pas n'importe quoi, et que c'est même dans l'intérêt des chercheurs qu'on ne publie pas n'importe quoi, parce que ça leur évite de passer du temps sur des fausses pistes. L'action, maintenant. L'action, c'est quelles sont les conditions de la transition vers l'accès libre. C'est là que se trouve le problème, bien sûr. D'abord, préserver la liberté de publier, où que ce soit. Alors, quoi que ce soit, dans la mesure où c'est publiable, hein, attention. Hein. Aller vers un modèle surtout simple. Les chercheurs n'ont pas le temps de se plonger dans toutes les difficultés. Le travail d'un chercheur, c'est de chercher, si possible, de trouver. Et je dirais qu'actuellement, si les éditeurs, les grosses maisons d'édition prospèrent, c'est aussi parce que les chercheurs ne se posent pas trop de questions, ils publient là où c'est le plus facile, et aussi pour eux, ils croient que c'est le plus prestigieux. Donc le modèle simple ne doit laisser pas les chercheurs, surtout ne pas laisser les chercheurs face aux éditeurs. Je crois qu'on doit cette phrase à Jean-Pierre Finance. Je le reprends, mais je cite. Que les éditeurs qui sont en fait des prestataires de services. Hein. Attention, ce n'est pas péjoratif, ça, c'est des services qui doivent être payés. C'est assez normal. On a la chance en France d'être un pays ultra-centralisé. Mais ça, il faut en bénéficier. Pour une fois, ça va nous servir. Et cette centralisation fait que nous sommes représentés par des organismes type Couperin, qui donc des consortiums qui regroupent un peu toutes les demandes de tous les laboratoires, organismes et universités. Ce que l'on veut dans l'action, c'est aussi préserver l'évaluation de qualité. Et l'on veut permettre l'accès libre, immédiat, universel à la version éditée de référence. Il y a un moment où tout ce petit jeu de référing, de peer review, d'open peer review, il doit tout de même, le chercheur doit prendre position, il doit avoir, et prendre aussi ses responsabilités, il faut qu'il accepte une version où il publie son point de vue, et à ce moment-là, après, il peut y avoir d'autres publications qui le contredisent, mais il y a tout de même un problème de responsabilité. Et ça, il faut avoir accès à cette version éditée dès la publication. Assurer la pérennité de l'archivage, parce que, bon, c'est très joli, les sites, les serveurs, même d'Elsevier, Springer, Wiley, etc., on ne connaît pas tellement la pérennité de ces serveurs. Hein. Donc, il doit y avoir un archivage fait dans des archives nationales publiques à long terme. Et dernier point, mais qui n'est pas le moindre, c'est qu'il n'est pas question de payer plus. On paye déjà assez cher, d'ailleurs ça, tous les pays le diront, et que donc la transition vers l'open access doit se faire à budget constant. Pas de double paiement, double dipping, pas de double paiement, on a entendu, mais ça je pense que l'hybride fait l'unanimité contre, c'est déjà un point. L'accès libre institutionnel, tel que nous le proposons, c'est un modèle, alors il est clairement doré, ça c'est clair, il est gold, il est négocié entre les éditeurs et le ministère de la Recherche, c'est-à-dire déplacer les budgets des abonnements vers des droits à publier en accès libre, qui soit un accès donc visible immédiatement, mondialement, sans restriction. Transfert des fichiers, alors en même temps, on demande aux éditeurs de faire ce transfert des fichiers vers des archives ouvertes, donc qui est faite, c'est pas tout à fait automatique à faire pour les chercheurs, et ils ne le feraient pas de toute façon, ni les bibliothèques, donc on demande aux éditeurs de le faire. Pendant la période de transitoire, forcément, ce ne sera pas une transition du premier ordre, mais le plus raide possible quand même, on pourrait demander quand même que des APC de l'ordre de 1000 euros signés en bas, on l'a vu qu'il n'y a pas de raison, une revue sérieuse peut très bien fonctionner et vivre, et très bien payer, et payer correctement son personnel avec 1000 euros par article, avec un taux d'acceptation de 60%, enfin de régime, oui, c'est ça, mettons à 50%. Pendant cette période transitoire, les APC d'une année doivent être considérés comme un acompte sur l'abonnement de l'année suivante. Et au final, on arrivera à entièrement ouvert. Bon, mais ça, cette période transitoire, on aimerait bien qu'elle soit réduite à une semaine. Conclusion, je ne vais pas prendre trop de temps, on va pouvoir en discuter après. Dans la prochaine décade, il est évident que l'information scientifique sera majoritairement en accès libre. Je pense que vous partagez ce point de vue. Très important, c'est que les chercheurs doivent se sentir concernés. On a un peu l'impression qu'en ce moment, ça a été dit hier, qu'au fond, on se demande si les chercheurs sont tellement concernés par cette transition. Et il ne doit surtout pas perdre la main sur la diffusion au cours de cette transition. Les éditeurs sont très actifs. Ils ont toujours un train ou un métro d'avance sur les chercheurs, et parce qu'ils ont un intérêt financier très important là-dedans. Mais il faudrait quand même que les chercheurs se sentent concernés. La recherche et les publications, elles sont internationales, ce qui demande des efforts coordonnés entre les différents pays d'Europe. Alors, avec Jean-François Bach, il en a fait allusion ce matin, nous avons fait une d'agréables visites dans trois capitales européennes importantes. Il y a Berlin, il y a Londres et il y a Amsterdam. Tout ça, c'était très bien. On était très bien reçus. On nous a écoutés. Les gens que l'on avait reçus, enfin, par exemple, aux Pays-Bas, c'était les dirigeants de l'Académie royale des Pays-Bas. En Allemagne, c'est la Max Planck. Aux États-Unis, c'est la Royal Society. Par contre, nous sommes un peu désolés que pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de retours. Donc, on avait fait les premiers pas, mais tous ces grands élans européens, ils ont pas, ça devrait se traduire par des échanges. Alors, un point maintenant, quand même, peut-être assez crucial, que tout ça, ce ne sont pas des grands projets très académique. L'Académie des sciences a mis ce modèle en pratique, c'est-à-dire qu'à partir de 2016, toutes les publications des organismes français, c'est-à-dire que quel que soit l'auteur, mais dans la mesure où il a travaillé dans un organisme français et qui publie dans les comptes rendus de l'Académie des sciences, c'est une publication donc qui a 7 sections, seront en accès ouvert libre, enfin, un accès libre institutionnel, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas payer un euro de plus pour ça. Donc ça, c'est quand même, c'est la mise en pratique de ce que, je dirais, de l'avis qu'on a donné, et on va voir ce que ça va donner. Je pense on devrait tendre vers généraliser ce modèle chez nous à beaucoup plus de revues et beaucoup plus d'éditeurs que l'éditeur actuel que l'éditeur futur, d'ailleurs, des comptes rendus de l'Académie des sciences. Mais je serais assez intéressé s'il y a des commentaires là-dessus, parce que je ne peux pas dire que c'est irréaliste, puisqu'on l'a mis, on va débuter ça. Donc, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je serais assez intéressé s'il y a des questions.
Merci. J'ai vu circuler des tweets sur l'implication des chercheurs, mais évidemment, il faut donner aux chercheurs l'occasion de comprendre que c'est dans leur intérêt et que c'est positif pour eux. Tant qu'on ne fait pas l'effort de leur expliquer, ils ne peuvent voir que des inconvénients.
Oui, je vous en prie. Je voudrais faire un commentaire, parce que vous parlez des coûts de publication. Mais l'évaluation des papiers, elle est faite par les chercheurs. Et leur salaire, il est payé par qui ?
Non, mais ça,
En général, l'évaluation n'est pas payée.
Mais je suis entièrement d'accord et je suis assez bien placé pour le savoir parce que j'ai été rédacteur en chef de plusieurs revues européennes. Malheureusement, le chercheur, il n'est pas le secrétaire de rédaction. Hein. Le chercheur, il fait l'évaluation. Même le rédacteur en chef n'est pas payé. Hein. Il peut être directeur de recherche au CNRS.
Mais
il y a tout le travail qui consiste de secrétariat qui n'est pas négligeable. Ceux qui n'ont pas... aller dans un secrétariat d'édition d'un journal qui publie, par exemple, 2000 papiers par an, c'est un assez gros travail de secrétariat, de contacter les référés, qui d'ailleurs ne répondent presque jamais. Donc il faut les contacter, les recontacter, etc., recevoir les rapports, ensuite les transmettre aux différents éditeurs scientifiques. Je suis désolé, il y a quand même des gens qui travaillent, et qui travaillent d'ailleurs très bien, dans les secrétariats, et c'est, je dirais, les coûts de publication, en partie, servent à payer ce personnel.
Oui, monsieur.
Oui, Jacques Laffey, UPMC, je suis aussi émérite et aussi chercheur et aussi en physique. J'avoue que je tombe un peu des nues quand j'entends que l'Académie des sciences, mais c'est bien vraiment l'ensemble de l'Académie des sciences qui recommande ceci, considère qu'on doit prendre l'ensemble de ce qu'on paye actuellement pour tous nos abonnements, les transférer en APC et que tout ira mieux, pour le mieux dans le meilleur des mondes. Effectivement, certains États semblent avoir fait ce choix-là. Je crois que c'est continuer à se livrer pieds et poings liés aux multinationales de l'édition et qu'on va vraiment complètement à la catastrophe avec ce genre de choix. Alors, je ne voudrais pas être perfide, mais enfin, les CRAS, les comptes rendus de l'Académie des sciences, ont appartenu malheureusement à Elsevier pendant de nombreuses années. Est-ce que c'est... On pourrait voir une relation de cause à effet à ce genre de décision. J'espère que non. Dernier point, j'aimerais bien qu'on fasse la différence entre barrière mobile et embargo. Ce ne sont pas du tout les mêmes choses.
Bon, je voudrais tout de même intervenir sur le... Je dirais... confrontation vraiment frontale avec les éditeurs. Je dirais que les éditeurs ne sont pas... Bon, il y a des profits un peu scandaleux qui sont faits sur le dos du contribuable en France, mais c'est...
Même beaucoup. Ils ont même beaucoup.
Mais d'un autre côté, il y a tout de même aussi un travail qui est fait par les éditeurs. Il y a certaines revues qui sont... où il y a un travail additionnel. Il est très agréable de lire ces revues. Il y a de la valeur ajoutée, tout de même, par les éditeurs. Bon, maintenant... On est, je pense, assez d'accord que faire des profits de 33% de marge nette, c'est un peu choquant. Oui. On n'est pas habitué à ça, dans d'autres activités industrielles. Donc ça, c'est un point.
Bon, normalement, on doit pouvoir choisir de payer pour les avantages additionnels. Hein. On doit pouvoir dire, tiens, ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas.
Oui, c'est ça.
Mais aujourd'hui, avec les big deals et tous les systèmes qui sont mis en place, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et donc, voilà. on achète notre bazar.
Notre point de vue, ça a été... Bon, d'accord, il faut renouveler un contrat d'édition. Alors là, entrons carrément dans le vif du sujet, sur les comptes rendus de l'Académie des sciences. Le contrat d'édition venait, avec Elsevier, venait à échéance en juin... Enfin, il vient à échéance fin 2015. Donc, il y a eu un marché public. Tout ça, c'est extrêmement codifié en France. Et il y a une proposition, Elsevier, il y a une proposition d'autres éditeurs. Et je dirais qu'à ce moment-là, nous, le bureau de l'Académie, auquel je n'appartiens pas, je le précise, a décidé de mettre en pratique ce qu'il avait conseillé. C'est bien la moindre des choses, quand même, de s'appliquer l'avis que l'on donne. Hein. Et nous avons donc insisté à ce que celui qui reprendrait le contrat d'édition des publications de l'Académie, justement, mettre en pratique l'open access. Bon, il se trouve, et là, c'est, je dirais, un peu hors du sujet aujourd'hui, que pour des raisons strictement économiques, pour ménager le double paiement qui aurait été le cas, pendant 3 ans, nous avons été obligés de garder Elsevier. Ce n'est pas de gaieté de cœur, mais il se trouve que c'est pour des raisons. Autrement, ça aurait engagé le contribuable français à payer 2 fois la publication des comptes rendus, à cause d'un contrat qui avait été signé plus global. Bon, je n'ai pas peut-être à m'étendre trop là-dessus, non. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose...
Ça sent le commerce frelaté, mais enfin bon... Ça sent le commerce frelaté, mais vu de l'extérieur. Donc moi, je suis qu'un observateur.
Bon, je dirais que ce qu'on peut... On a quand même imposé l'accès ouvert et gratuit à tous les travaux venant d'organismes français.
Bien.
Oui.
Bon, l'heure avance, il est 5h20 déjà.
Oui, j'ai le micro. Oui.
Ah, vous avez... Oui, petite dernière.
Oui. Catherine Kounelis, je suis bibliothécaire à l'École de physique et chimie. Et j'ai une remarque et une question. Je vois que vous employez le terme IOA, Institutional Open Access. Or, nous, les bibliothécaires, depuis longtemps, quand on parle des archives ouvertes, on parle des archives ouvertes institutionnelles, donc c'est le même sigle, mais ça fait référence aux dépôts d'archives ouvertes, type HAL, par exemple. HAL, c'est national, et quand c'est une institution, un établissement qui fait son HAL, son petit HAL à elle, ça s'appelle archives ouvertes institutionnelles. Donc ça, c'est en dépôt, donc c'est du vert, alors que le IOA, ce que vous appelez IOA, c'est du gold. Donc c'est peut-être une confusion qui serait à éviter, d'autant plus qu'on sait que déjà les chercheurs sont perdus dans tout ça. Donc si on leur fait encore une confusion, ça va, c'est quand même un peu dommage, ça va être difficile à démêler. Donc, ensuite, j'ai une question. Vous avez parlé de la période de transition, qui effectivement, c'est qui pose le plus de problèmes, parce qu'on l'a vu dans l'exposé précédent, c'est que pendant la période de transition, nous avons les abonnements plus les APC hein, qui s'ajoutent. Donc, vous avez fait une proposition qui mérite d'être regardée, qu'on réfléchisse. Vous avez dit des APC à 1 000 euros qu'on paierait en acompte sur un abonnement, enfin, qui serait déduit sur l'abonnement de l'année suivante. Mais comment ce truc-là peut être appliqué ? Est-ce que vous imaginez, par exemple, que les APC devraient être centralisés au ministère ? Et que du coup aussi tous les abonnements devraient être centralisés au ministère, parce que c'est comme ça seulement que je comprends qu'ils puissent avoir ce système d'acompte.
Les abonnements.
Est-ce que vous avez
là, je pense qu'il faudrait
des réponses là-dessus.
Discuter, mais ça devient assez technique avec les personnes de Couperin, hein, parce qu'il y a quand même une certaine centralisation. Profitons-en. Mais effectivement, vous avez raison, il faut centraliser, il faut faire le décompte des APC payés. Ceci étant, ce que nous avons utilisé pour nous, c'est radical. Hein. C'est-à-dire, d'une année sur l'autre, à l'occasion d'une renégociation de contrat, on change totalement le système. Donc, ça ne se pose pas au compte-rendu de l'Académie des sciences, puisque là, on va changer. Comment ? Oui, alors pour les organismes étrangers, c'est 1 000 euros l'article. Bon, quand on a vu l'étendue, la distribution des APC dans les différents journaux, on est quand même dans une fourchette plutôt basse, il me semble.
Bien,